Et maintenant, on va pouvoir aborder les questions abordées déjà par Axel. Alors, disons tout de suite qu'il a employé des termes copie génétique, copie à l'identique. Bernard Golz a dit ah oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des. Tout de même, est-ce que vraiment il y a une copie tout à fait à l'identique? Alors, il vous a dit non, parce que vous aviez évoqué éventuellement des échanges de gènes, de consignes inversées. C'est tout à fait vrai que tout ce qui nous fait différent dans la reproduction tout à fait naturelle, c'est le remélange, le battage de gènes qui se passe au niveau des gamètes et qui est la division méiotique, qui mélange donc les morceaux de chromosomes avec des échanges et qui fait que sur chaque chromosome, il y a un morceau à un endroit donné qui est d'origine paternelle et puis un petit peu après un morceau d'origine maternelle, et c'est ce qui fait toute notre diversité. La reproduction normale, la reproduction sexuée, c'est en effet une machine à faire du toujours différent, à l'exception des jumeaux. Et puisqu'elle prononce le terme de jumeaux, et qu'on parle souvent des jumeaux pour parler de l'identique, et qu'on les prend comme modèle, il faut déjà distinguer, et il faut bien entendu que l'on ne parle, quand on parle d'identité des jumeaux, il faut sélectionner les seuls jumeaux qui sont issus d'un spermatozoïde et d'un ovocyte, c'est-à-dire des jumeaux dits monozygotes qui viennent du même œuf, par rapport aux autres jumeaux qui, eux, peuvent être très différents l'un de l'autre, à commencer par le sexe. Les autres paires de jumeaux qui sont non monozygotes, hétérozygotes, comportent un garçon et une fille de manière tout à fait fréquente. Mais ce que l'on sait déjà, commencer par les monozygotes, c'est qu'il y a une différence à la naissance. Il y a une différence de poids, il y a une différence dans les poids des placentas. Et ces différences dans les jumeaux monozygotes, on commence à comprendre maintenant que c'est justement des différences dues au mécanisme d'empreinte génétique, qui expliquerait la part des différences. Et on a utilisé néanmoins depuis toujours ces jumeaux monozygotes en les comparant à des jumeaux dizygotes ou à d'autres enfants pour essayer de répondre à l'éternelle question de la part de la génétique, de la part de la nature et de la part de l'environnement. Eh bien, il y a dans ces travaux qu'a mené une partie de la biologie, surtout aux États-Unis, de la sociobiologie, et qui a rapidement d'ailleurs dérapé, ce qui a été bien mis en évidence, c'est que pour tous les traits de caractère qui ont été pris diversement et étudiés, c'est la part tout à fait importante de l'environnement. Donc on ne peut pas parler, je crois, d'enfants à l'identique ou d'autres êtres à l'identique. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir que c'est l'environnement qui commande les différences qui commande finalement l'expression des différences génétiques. Axel Kahn nous disait bon, c'est un être à l'identique, mais il n'a pas trop insisté sur cette notion d'identité, en reconnaissant qu'il pourrait tout de même y avoir des différences qui sont dues au phénomène d'empreinte et qui sont dues au fait que toute la molécule d'acide désoxyribonucléique, la molécule de la transmission, n'existe pas seulement que dans le noyau, elle existe aussi dans le cytoplasme. Il y a un petit capital de gènes qui sont des gènes transmis par le cytoplasme et qui donc ne sont pas les mêmes lorsqu'on fait qu'un transfert de noyau. Bon. Mais ce qui était le fond de son argumentation, c'était qu'il y avait un lien de dépendance, comme il le disait, et qui et d'employer les termes d'assujettissement, d'appropriation. Et ça peut être vrai, sans doute. C'est en tous les cas toute une terminologie qui a été utilisée quand encore on ne plaquait pas automatiquement sur le clonage reproductif l'idée du meilleur des mondes, c'est-à-dire la constitution d'être totalement assujetti et d'être conditionné pour avoir tel ou tel rôle social. Balayant cette image du meilleur des mondes, quoi qu'elle ait été utilisée, pour une condamnation sociale d'emblée du clonage. Mais le clonage, l'argumentation d'Axel Kahn n'allait pas jusqu'à utiliser ce terme ou cette idée, mais il soulignait donc la dépendance. Mais sachons bien que s'il y a une demande qu'il évoquait dans ce domaine, demande à laquelle on ne peut pas répondre à l'heure actuelle, mais s'il y a une demande, ça vient de la part de sujets qui sont stériles et qui sont au-delà des possibilités à l'heure actuelle de pouvoir satisfaire leur demande parfaitement légitime d'avoir un enfant par les techniques usuelles de l'assistance médicale à la procréation. Et pour eux et pour ces couples, j'en ai connu dans mon exercice quelques-uns, dans le fond, c'est l'espoir du degré supplémentaire. Il y a 10 ans, quand il y avait une stérilité masculine, on ne savait pas que faire, on était complètement bloqué et on pouvait proposer qu'un don de sperme, bon, ce qui rompait le lien génétique. Mais ce lien génétique auquel notre société contemporaine tient tellement et qu'elle a tellement valorisé, avec comme conséquence cette recherche de la part des couples du lien génétique et cette réserve à l'égard de ce qui est l'introduction d'un donneur étranger. Donc pour les couples qui sont au-delà des possibilités actuelles de l'AMP, eh bien ils vivent la possibilité du clonage comme étant la possibilité d'obtenir à partir du noyau de l'un des deux membres du couple d'avoir enfin leur enfant, dont ils disent bien à nous, ce qui signifie qu'il a un capital génétique non contaminé. C'est pas ce qu'ils expriment, mais je figure, moi, parce qu'une partie serait venue de l'extérieur. Non, c'est au moins c'est l'utilisation d'un capital intra-couple. Donc, leur jeter à la figure le lien de dépendance qu'ils veulent, bah, ma foi, c'est un petit peu faire la critique de tout désir d'enfant. Quelle est la part de la dépendance qui se cache derrière tout désir d'enfant? Mais je crois qu'il faut donc être très nuancé dans les critiques que l'on fait. Axel Kahn soulignait qu'il y avait de toute manière des obstacles techniques, ça j'ai lourdement insisté et ils n'ont toujours pas été levés à l'heure actuelle, mais des obstacles moraux et des obstacles éthiques. Et citait la condamnation internationale de la déclaration de l'ONU. Et le débat a été relancé aussi en France sur la question du renouvellement de la loi de bioéthique. Et là, on a vu se dessiner un partage. Parce que depuis Dolly, elle a été vécue au départ, donc il y a 7 ans, qui a été vécue, et l'image qui a été imprimée du clonage, c'était une image de clonage reproductif, de création d'un organisme entier. Mais quelques années après, très très vite, a surgi l'idée du clonage thérapeutique, où là ça n'était pas faire un autre être, c'était faire des cellules neuves capables de se différencier. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu le clivage de la réaction et de la réponse au social, global, à l'égard de l'éthique. Et avec une distinction majeure. Clonage reproductif, on est resté sur l'idée de départ d'une condamnation sans appel, au point que ça a été qualifié, qu'on a voulu le qualifier, c'était une proposition pour la révision de la loi de bioéthique en France, de qualifier le clonage reproductif de crime contre l'humanité. Vous savez que cette terminologie a une signification bien précise depuis la dernière guerre, ce sont les génocides raciaux, et que ça a tout de même une signification extrêmement différente que celle de vouloir reproduire. On est dans un registre qui n'a rien à voir. Eh bien, c'était la qualification, c'était un crime contre l'humanité. On s'est rendu compte que c'était tout à fait excessif, ce qui fait que Jean-François Mathilde, qui a toujours été au niveau politique celui qui était l'inspirateur des lois de bioéthique, a battu un petit peu en retraite, et ça s'est transformé, et c'est ainsi que ça figure dans la loi qui est susceptible toute peut-être d'être votée dans quelques semaines, en crime contre l'espèce humaine. Mais avec une lourdeur de condamnation, que c'est très très proche, c'est 30 ans de prison, c'est je ne sais combien de millions d'euros d'interdiction, etc. Ça montre cette réaction sociale qui juge que c'est tout à fait intolérable. Et par contre, l'indulgence a été grandissante à l'égard de l'autre clonage, le clonage thérapeutique, et au point qu'à l'heure actuelle, les Anglais l'ont totalement accepté, se sont refusés à condamner, avec leur pragmatisme habituel, à condamner le clonage reproductif, mais ont développé des recherches, et dans d'autres pays aussi, sur le clonage thérapeutique. Et le clonage thérapeutique, on lui entrouvre la porte en France encore. Alors pourquoi cette différence de traitement entre les deux ? Je crois que ça tient essentiellement à ce que derrière tout clonage, il y a un rêve d'immortalité. C'était le titre que j'avais donné dans votre revue à cet article. Quel rêve derrière le clonage ? Alors, le clonage thérapeutique, arrêtons-nous avec cet arrière-pensée sur lequel on reviendra de l'immortalité, car c'est véritablement ceci qui est sous-jacent toutes les discussions concernant le clonage, même si ça n'est pas conscient et si ça n'est pas exprimé. Mais quand on a parlé de clonage thérapeutique et qu'on l'a justifié par son utilité, qui est le jour où ça serait réalisé, réalisable, par son utilisation qui en serait faite pour le traitement de maladies. En particulier, on cite toujours comme exemple les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire le Parkinson, c'est-à-dire le vieillissement, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, etc. L'idée, c'est que l'on puisse aller remettre des cellules cérébrales intactes et jeunes. En somme, la métaphore du clonage thérapeutique, c'est la métaphore c'est une métaphore mécanique, celle de la machine. La machine, elle est, pour reprendre l'exemple de la machine automobile, on peut, et c'est ce qui se pratiquait beaucoup dans le temps, maintenant on la jette et on prend une nouvelle, mais c'était la réparation. C'est-à-dire qu'un organe a vieilli prématurément, on le remplace par un organe neuf. C'est un remplacement de pièces. Alors quand on passe au biologique, un remplacement de pièces comme ça, c'est pas facile, parce qu'il y a un obstacle, c'est que nous avons chacun notre spécificité, notre notre barque d'individualité biologique qui fait que les organes ne s'échangent pas facilement de l'un à l'autre. Et bon, quand on a essayé de le faire, avant que l'on connaisse ce qui gouvernait la tolérance immunologique, eh bien, on s'est heurté à des échecs. Bon. Et maintenant, on sait un petit peu mieux assurer, dans le transfert d'organes d'adulte à adulte, assurer une compatibilité, mais vous voyez tout de suite que la limitation dans cette démarche de remplacement de pièces usagées par d'autres, par des organes donnés, même si on arrive, médicalement parlant, à juguler le rejet, le vrai problème, c'est qu'on a une insuffisance de donneurs. Comme c'est son noyau que l'on aura implanté dans l'ovocyte qui donnera les cellules souches, ces cellules souches, une fois développées, une fois différenciées, seront totalement compatibles. Donc, formidable espoir. Et on parle là d'une médecine régénératrice. Parce qu'on va se prolonger, on a donc l'impression que l'on va pouvoir se prolonger maintenant. Arrêtons-nous rien que dans le terme de médecine régénératrice, on trouve donc la racine de cette notion de régénérescence. Eh bien, finalement, nous retombons dans un raisonnement, comme souvent, qui a été un raisonnement dont on trouve des racines au XIXe siècle. Le terme de régénérescence a été utilisé à cette époque-là. Il n'était pas utilisé au plan individuel comme maintenant, quand on parle de médecine régénératrice, c'est une médecine d'individu, médecine de correction de défaillance individuelle. Au XIXe siècle, c'était une vue collective. On avait l'idée, on était très axé sur une soi-disant dégénérescence des races, à cause des deux grands, à la fois des malformations, mais de l'alcool, des transmissions de maladies infectieuses, particulièrement la syphilis, il y avait ce climat de dégénérescence qui a inspiré un certain nombre de médecins l'idée qu'il fallait lutter contre cette dégénérescence et qu'il ne fallait donc permettre que la reproduction d'individus parfaitement sains. Et ça, nous avons donc, c'est le courant qui est né en Angleterre, mais qui a eu ses adeptes en France, c'est le courant d'un eugénisme. D'un eugénisme qui était innocent, qui n'avait pas encore connu les abominations de la période hitlérienne, qui partait d'un bon sentiment, qui était dans le fond d'éviter d'avoir cette dégénérescence de la race. Eh bien, nous retrouvons là aujourd'hui un vocable qui est réutilisé maintenant sous l'angle de la médecine individuelle et de la régénération de l'individu lui-même. Et je crois que, de la même manière que ça avait suscité fort courant d'adhésion au 19e, cette idée de régénérescence collective, et bien maintenant, le même courant, nous le retrouvons devant cet espoir, non pas peut-être d'éviter totalement le vieillissement, mais en tous les cas de reculer la mort. Et c'est là, et c'est bien là, la raison de l'avantage et de l'indulgence que l'on a à l'égard du clonage thérapeutique. Pour le clonage, et on pourrait dire qu'il y a, dans ce sens de repousser la mort, donc de la recherche d'immortalité, il y a cette voie du clonage thérapeutique, mais se développe de la même manière, bien qu'on en parle beaucoup moins, des recherches qui sont au moins aussi actives et beaucoup plus avancées d'allongement de la vie. Alors ça, il y a eu un virage il y a plusieurs décennies lorsqu'on a découvert que une idée de Carrel, qui était un de ceux qui avait donné un petit peu justement dans cet eugénisme, et qui avait eu quelques indulgences coupables pour ce qui s'est passé pendant la dernière guerre, mais Carrel c'était un grand biologiste, et avait cru montrer que in vitro, des cellules prises dans un organisme animal ou un organisme humain, étaient quasiment éternelles, et qu'elles s'entretenaient avec la remède du bouillon de culture, et qu'il n'y avait pas de limite. Et que s'il y avait une mort de ces cellules, c'était du fait des phénomènes extérieurs. C'est parce qu'on n'avait pas su assurer l'entretien extérieur. Et on s'est rendu compte que la soi-disant immortalité cellulaire de Carrel, en fait, c'était des fautes techniques compréhensibles à l'époque, mais qui faisaient qu'on réensemençait. On croyait n'apporter que du bouillon nutritif et on réamenait des cellules jeunes en même temps. Et peu d'années après, un Anglais a pu démontrer que non, il y avait une limite pour des cellules in vitro, elles pouvaient se reproduire en gros 40 à 50 fois. Et puis ensuite, elles mouraient, ces cellules, quelles que soient les conditions de l'environnement. Ce qui déplaçait complètement l'explication et signifiait qu'il y a la mort cellulaire de la cellule était une mort venant de l'intérieur de la cellule, ne dépendait pas de phénomènes d'environnement. Alors les équipes, dès lors, il y a 50 ans, se sont mis à rechercher qu'est-ce qui commande si bien cette horloge comptant le nombre de duplications. On parle de réplication. Et l'auteur anglais qui a fait ses travaux, il a cherché pendant longtemps le lieu, la structure qui assurait cette réplication un certain nombre de fois, puis qui ensuite s'arrêtait. Bon. Assez récemment, on a mis le doigt sur ce mécanisme qui compte le nombre de renouvellements et qui signe donc un terme même à des cellules qui se renouvellent. C'est l'extrémité, vous avez entendu parler de ça, ce sont les télomères, les extrémités des chromosomes. C'est en somme l'ourlet qui est fait au bout du chromosome pour éviter qu'il ne s'effiloche. Eh bien, il y a une machine à coudre qui automatiquement fonctionne. À chaque division, il faut recommencer pour faire cette ourlet au bout. Mais il faut disposer d'une enzyme particulière, comme ce morceau s'appelle télomère, on parle d'une télomérase, et elle s'épuise cette enzyme. D'où l'ourlet se rétrécit continuellement, et quand il n'y a plus d'ourlet, ne peut plus être refait par la télomérase, eh bien les divisions deviennent complètement anarchiques et c'est la mort de la cellule. Eh bien, en bloquant sur l'animal, en bloquant, faisant que la machine à faire l'ourlet, permettez-moi cette expression grossière là, peut-être entretenue par certaines astuces, on a réussi à faire des prolongations d'organismes, et bien un espoir d'ailleurs. Mais là aussi, même chose, dans la cellule cancéreuse, c'est ce qui se passe. L'ourlet, il ne se consomme pas, il existe tout le temps. C'est une des caractéristiques qui permet à la cellule cancéreuse de se multiplier à l'infini. Donc on est gêné chaque fois, on retombe dans le problème du clonage, c'est que ce sont des machines infernales qui vont au-delà du but que l'on recherchait. Alors, maintenant, ça c'est des travaux qui ont été menés pendant longtemps sur des cellules, et qui sont toujours menés sur des cellules. Mais on mène maintenant des travaux sur des organismes, et en particulier sur une espèce de petit ver qui dure 2-3 mm, mais qu'on connaît très très bien, parce que c'est un modèle étonnant pour les biologistes, il s'appelle Cénoraptitis elegans. Bon, et il est très 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 utile. Alors, lui, on sait bien le manipuler, on sait qu'il a une durée de vie de 20 et quelques jours, très 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 exactement fixée. Et on voit qu'on arrive à augmenter très, très sérieusement sa durée de vie si on trafique quelques gènes. En gros, ce sont des gènes qui touchent un peu au télomère, mais aussi qui touchent à la nutrition en général, ou qui bloquent les phénomènes d'usure, d'oxydation, les phénomènes d'oxydation. Le stress oxydatif, c'est un phénomène qui est comparable à la rouille pour les métaux et qui ronge en quelque sorte certaines de nos molécules. Si on bloque ces choses-là, chaque fois on a un petit allongement. Et surtout, si on retire au ver toute cette partie, tout son appareil génital, là aussi ça allonge la vie. Et nous allons revenir sur ce point important du rapport entre la reproduction et l'immortel et l'allongement de la vie. Mais le gain à l'heure actuelle sur ce ver, il est de 5 fois. On multiplie la durée de vie du ver de 5 fois. Vous voyez ce que ça pourrait donner à notre échelle comme horizon de vie. Donc, l'immortalité, qu'elle soit... Certains biologistes pensent, et il y a un excellent biologiste anglais, John Harris, H-A-R-I-S, qui en est persuadé, et qui a écrit un papier en disant, écoutez, on est parti vers l'immortalité. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on gagnera progressivement, mais on va allonger la vie, c'est tout à fait certain. Et ça va commencer à poser des problèmes. Ça va poser des problèmes avec la reproduction. Je vous ai dit tout à l'heure, si on empêche la reproduction, si on retire l'appareil reproducteur du petit ver, là, et bien on multiplie sa durée. Eh bien oui, quand on perd toute l'évolution, il y a une compétition entre reproduction et durée de vie. C'est-à-dire que pour l'évolution, l'organisme n'est jamais, tout organisme n'est jamais qu'un relais pour entretenir la vie du groupe. Et c'est ça l'objectif, c'est l'entretien de la vie du groupe. Et il est extrêmement utile juste tant qu'il peut être reproducteur. Et au-delà, quand il n'est plus reproducteur, il devient nuisible dans une logique de groupe puisqu'il va consommer des biens, au sens le plus large qui soit, sans contribuer à la perpétuation du groupe. Et donc, nous voyons au travers de cela cette compétition entre reproduction et allongement. Or, ce que l'on recherchait dans le clonage thérapeutique ou dans l'allongement de la vie par les manipulations sur les gènes qui commandent la durée de vie, c'était justement un allongement de la vie. Et John Harris pousse ce conflit d'intérêts, reproduction et procréation jusqu'à son extrême en disant, un, on arrivera à la longue pérennisation, presque à l'immortalité. Deux, ça posera des problèmes parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura plus ce renouvellement, il y aura des êtres qui ne demandent qu'à exister, il n'y a plus de possibilité, étant donné les potentialités globales d'entretien de la Terre, il n'y a plus de possibilité pour laisser de nouveaux êtres arriver. Donc, dans son optique, et exposé dans les plus grandes revues scientifiques, dans Science, il dit, ben voilà, dans le futur, il faudra que les individus choisissent. Donc, ou bien ils choisiront d'être éternels, et à ce moment-là, ils doivent renoncer à leur reproduction, ou bien s'ils veulent la reproduction, il faudra qu'ils renoncent au contrat de vie à l'éternité. J'avais fait une autre démarche, je m'étais dit, mais qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on a devant cette donnée de base qui est le conflit d'intérêts entre reproduction et immortalité. Qu'est-ce que l'on veut, nous, véritablement? C'est difficile à avoir une solution, parce qu'on veut les deux. Nous, on voudrait des enfants, puis on voudrait aussi, on voudrait beaucoup durer longtemps. Mais le choix est obligatoire. Et quand il y a un choix à faire, vers quoi on va tendre? Alors, je n'ai eu qu'une réponse, c'était de me reporter à une situation utopique, idéale, et celle de imaginer pour la situation du paradis, où il n'est que cité la phrase usuelle, être au paradis, gagner le paradis, etc. Donc, la béatitude des béatitudes est dans ce domaine. Et j'ai retrouvé à ce moment-là, et j'ai fait état, une donnée intéressante qui était une parabole que l'on trouve chez Saint Luc, qui est une interrogation posée. Saint Luc raconte ceci, les Sadducéens, c'était donc une secte qui ne croyait, qui rejetait l'idée de la résurrection, et qui voulant coincer un petit peu l'interlocuteur, en l'occurrence le Christ, il dit, bah, écoutez, voilà, répondez-nous au problème suivant. Une femme est mariée, et son mari malheureusement meurt avant qu'elle ait eu un enfant. Alors, en vertu de la règle Lévira qui impose que le frère se substitue pour faire un enfant en place de son frère décédé, la femme se marie avec ce frère. Malheureusement, la même chose se reproduit. Alors, pour bien comprendre, c'est poussé jusqu'à la caricature, ça se produit comme ça, 7 fois, dans les 7 cas, il n'y a toujours pas d'enfant. Oui, mais ils vont tous mourir, et au ciel, c'est ça la question. De qui sera-t-elle la femme? La réponse. Eh bien, au ciel, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de reproduction, il n'y a plus d'enfants. Nous sommes dans une béatitude éternelle. Bon, je ne vous cite pas exactement, c'est dans Pantaclé que j'ai donné la concoction. Voilà, le choix idéal que nous avons dans ce modèle idéal, c'est le paradis.